L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
À l'occasion de la Journée mondiale du climat, lundi 8 décembre, le Mans Université et la Ville du Mans organisaient une journée de conférences. Pour clore cette journée, Laurent Fabius, ancien Premier ministre sous François Mitterrand et précédent président du Conseil constitutionnel, est venu faire un état des lieux de l'action mondiale contre le changement climatique. Alors que nous fêtons les 10 ans de l'accord de Paris, c'est Laurent Fabius qui présidait la COP21 durant laquelle cet accord a été signé. Accord qui a fixé un objectif, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Laurent Fabius raconte comment il a été amené à présider cette COP.
Vous savez qu'il faut désigner quel est le pays qui va accueillir la COP. Et la désignation de la France a été faite 2 ans auparavant. C'était en Pologne. C'était un petit peu particulier parce que nous étions les seuls candidats. Comme on était les seuls candidats, on a eu évidemment pas mal de chances d'être sélectionnés. Et les délégués de l'ensemble du monde sont venus me voir au moment de la désignation. Et je me rappelle très bien, ils avaient tous un sourire un peu particulier et ils disaient tous la même chose. Mr. Fabius, good luck. Je sentais dans cette courte phrase une petite partie d'ironie.
La principale difficulté, mettre tout le monde d'accord.
La COP doit finir sur un texte qui doit être adopté à l'unanimité, puisque la règle des COP, c'est qu'il faut un consensus pour qu'il y ait un texte. S'il y a un pays, même le plus petit, qui dit non, il n'y a pas de texte.
Lorsque Laurent Fabius tape du marteau, c'est l'effervescence.
Et la salle, qui était en face de moi, composée donc de 200 ministres, tout d'un coup éclatait de joie, ce qui n'est pas très fréquent dans les cercles officiels. Vous aviez là des femmes et des hommes dont la caractéristique principale n'est pas d'être très expansif et qui s'embrassaient, comme ça je me rappelle très bien mon collègue chinois, qui était là et qui dansait la gigue avec ses voisins, etc. Bon, c'était une autre époque. Voilà, nous arrivons à cet accord international, universel.
Le président de la COP21 revient sur les conditions qui ont rendu possible cet accord.
Parce qu'à l'époque, il y avait 3 éléments qui étaient rassemblés. D'abord, la science. Déjà, le fameux GIEC existait, mais il y avait beaucoup de travaux scientifiques. Et ces travaux scientifiques, à l'époque, ce souvenir que j'en ai, n'étaient pas systématiquement contestés. Il y avait la création, dans l'opinion, d'un certain nombre de résultats apportés par les scientifiques du monde entier qui faisaient bien comprendre qu'il existait un dérèglement climatique, que ce dérèglement climatique était lié essentiellement à l'émission de gaz à effet de serre, et que donc si on ne voulait pas qu'il y ait une série de catastrophes dans le monde, il fallait s'attaquer à ces émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième élément qui venait en convergence de la science, c'était le sentiment dans la société, je veux dire chez les jeunes, chez les moins jeunes, dans les organisations, dans certaines collectivités locales, dans pas mal d'entreprises. Dans la plupart des entreprises, il y avait quand même l'idée qu'il fallait travailler pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, on peut dire que la société était quand même positivement disposée à aller dans ce sens-là. Et puis le troisième élément, donc avec la science, la société, c'était les États. À la COP, qui a lieu chaque année, ce sont les États qui votent pour votre monde. Et c'était une période internationale très différente. Il y avait à l'époque en Amérique le président Obama, en Chine c'était déjà le président Xi Jinping, mais on était arrivé à une certaine convergence entre les deux. Donc, il y avait cette pratique de ce qu'on appelait le multilatéralisme.
La COP30 de cette année n'a pas abouti à un accord suffisamment ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre. Laurent Fabius n'est pas surpris, les conditions ne sont plus remplies.
On s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi ? Parce que les 3 données dont j'ai parlé sont mises en cause. La science, est très fortement mise en cause. Pas simplement d'un point de vue principiel, avec les positions du monsieur Trump, mais d'un point de vue concret, il n'y a pas d'avancée de la science s'il n'y a pas en particulier de financement. Le financement ne suffit pas, mais il est indispensable. Or, quand les États-Unis d'Amérique suppriment les financements pour toute une série d'opérations scientifiques, ça a des conséquences. Et lorsque même ils attaquent le concept même de dérèglement climatique. En ce qui concerne la société, même s'il ne faut pas exagérer ce mouvement, il y a dans certains secteurs de la société, sous pression de certaines firmes économiques et sous pression de certains mouvements politiques, un certain recul. Je dis, il ne faut pas l'exagérer parce que je pense que les citoyens et citoyennes du monde entier comprennent bien qu'il y a un dérèglement climatique et souhaiteraient qu'on puisse lutter contre. Mais c'est vrai que vous n'avez peut-être pas la même unanimité que nous avons eu à d'autres moments. Et surtout, le multilatéralisme qui existait au moment de l'accord de Paris est évidemment battu en brèche avec la guerre russe en Ukraine, avec les positions chinoises par rapport aux États-Unis réciproquement, avec les contestations de tous ordres, avec la montée des BRICS, avec la dénonciation de je ne sais quel privilège de l'Occident. Et du même coup, eh bien, à Belém, il y a de cela quelques jours, on est arrivé à un accord, mais quand on regarde le contenu du texte final, il ne se prononce pas sur deux points qui sont absolument décisifs. D'une part, le financement, parce que pour arriver à lutter contre le dérèglement, ça demande à la fois dans les pays développés et surtout dans les pays émergents des finances considérables que les pays les plus pauvres n'ont pas. Et aussi, bien sûr, l'éloignement des gaz à effet de serre.
Même si les États ne sont plus à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui, le bilan de l'accord de Paris est tout de même bien réel.
À l'époque, la prévision des scientifiques sur l'évolution du climat pour la fin du siècle était au minimum de plus 4 degrés. Aujourd'hui, les mêmes scientifiques ou leurs successeurs disent la même projection n'aboutit plus à plus 4 degrés, mais elle aboutit autour de 2 degrés et demi. Alors évidemment, ça peut paraître des chiffres abstraits, mais derrière chaque dixième de degré, il y a des millions de vies sauvées et des milliers de catastrophes évitées. Avec un chiffre qui, lui, est donné par les scientifiques, c'est entre 4 degrés et 2 degrés et demi, il y a 60 jours de canicule en plus ou en moins. Donc, vous voyez, et ça, c'est très largement dû à Paris. Donc, ça, c'est incontestable. De la même manière, il y a eu depuis Paris, en grande partie grâce à Paris, grâce à l'accord de Paris, un développement tout à fait remarquable des énergies renouvelables, et un développement des investissements et des emplois dans ces technologies nouvelles qui a évidemment une incidence extrêmement favorable, même si ça pose à nous. Mais retenons cette idée, Paris, conséquence, 10 ans après, extrêmement positive. Mais, avec un grand MIS, 2,5 degrés, si les scientifiques nous ont dit c'est 1,5 degré qui est le maximum, c'est pas au doigt mouillé. C'est parce que, là encore, chaque dixième de degré apporte des conséquences très différentes. Et 2,5 degrés, c'est beaucoup et c'est beaucoup trop. Et donc, par rapport au futur, l'action qu'il faut essayer de mener, c'est de ramener de 2,5 degrés à 1,5 degré. Mais, ceci n'est pas un mystère pour vous qui sans doute suivez ces débats, les 1,5 degré, nous allons les franchir. Nous allons les franchir vraisemblablement autour de 2030.
Une récente décision de justice a renforcé l'accord de Paris.
C'est qu'au mois de juillet de cette année, juillet 2025, la Cour internationale de justice, qui est la plus haute juridiction du monde, s'est prononcé sur la valeur de l'accord de Paris, à l'unanimité, par une décision extraordinairement fortement motivée, la Cour internationale de justice a décidé que chaque disposition de l'accord de Paris était obligatoire pour tous les États. C'est donc plus une obligation seulement morale, c'est une obligation légale.
Mais pour motiver les gouvernements, pour Laurent Fabius, il faut remettre au centre l'adaptation.
Il se trouve que il faut faire le maximum pour lutter contre le dérèglement climatique, mais on sait que, en tout cas, une grande partie de ce dérèglement va avoir lieu. Et donc il faut s'adapter, et il faut adapter les territoires, et les forces, etc., à ce dérèglement. Et ça, malheureusement, ça se fait souvent sur fond public. C'est une des leçons de Bel Air et d'autres, quoi, en faveur d'une place beaucoup plus grande de ce qui est consacré à l'adaptation. Ce qui ne veut pas dire qu'on accepte la situation et qu'on ne fait rien. Et ce qui veut dire qu'on est réaliste, on est à la fois lucide et volontariste.
Laurent Fabius compare la réaction des États face au changement climatique et celle face à la crise du Covid, où la réaction était immédiate et de grande ampleur.
Je pense que l'une des raisons, ce que je dis est assez triste, c'est que dans un cas, il y avait la perspective immédiate de la mort. Et que les citoyens et les gouvernants se disaient, si on n'arrive pas à faire d'urgence cette mobilisation, eh bien, ça va arriver à nos voisins et pourquoi pas à nous-mêmes. Dans le cas du dérèglement climatique, qui, ça fait tic-tac, 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 la perspective n'est pas ressentie de la même façon. C'est ce que le Premier ministre canadien, qui vient de virer sa cutie d'une façon d'ailleurs regrettable, lorsqu'il était au climat, appelait la tragédie des horizons. C'est-à-dire que l'horizon des gouvernants, souvent, c'est l'horizon, c'est pas le même que l'horizon des problèmes. Hein. Bon. Mais c'est comme à eux à prendre des décisions.
L'ancien Premier ministre conclut sur deux erreurs à ne pas commettre.
Première erreur qu'il ne faut pas commettre, laisser entendre aux populations que cette question du dérèglement climatique est uniquement quelque chose pour dans 50 ans. Ça commence aujourd'hui. Si on dit aux gens, ne vous en faites pas, ce sera dans 50 ans, personne ne se lève. Parce que ça demande des efforts, tout ça. Parce que, bien sûr, il y a des chemins, mais il ne faut pas croire qu'ils soient indolores. Ne laissons pas croire que c'est uniquement du long terme. Ça commence aujourd'hui. Il faut dire aux gens la vérité, être lucide. Mais il faut toujours tracer une perspective positive. Si vous dites aux gens, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est pire, et après-demain je n'en parle même pas. Cette perspective politique existe, mais elle dépend de nous tous. Il faut retrouver, d'une certaine manière, la science, en lui fournissant les moyens de travailler, la société, et ça c'est un débat, parfois même un combat, qu'il faut mener, et puis les gouvernements. Et c'est là où je pense un pays comme la France, un ensemble comme l'Europe, doit faire des choses, proposer des choses et ne pas abandonner son combat. Merci.
D'autres intervenants de la conférence ont émis des réserves. Pour Marc Fontcaff, professeur de chimie au Collège de France, il y a un problème fondamental aux objectifs fixés par l'accord de Paris.
Au fond, on ne s'est pas posé la question de savoir si zéro carbone en 2050 et 1,5 en 2100 étaient réalistes et faisables. Et il s'avère que moi j'ai fait partie, comme d'autres d'ailleurs, je n'étais pas le seul, pour dire que la science nous disait aussi qu'il n'y aurait pas zéro carbone en 2050, pour tout un tas de raisons. On a évoqué les raisons économiques, je ne suis pas spécialiste de l'économie, on pourrait dire qu'il y a des raisons sociales aussi, aussi bien dans des pays développés que dans des pays moins développés. Et puis il y avait aussi des raisons techniques que moi je constatais, c'est-à-dire qu'on a peut-être trop cru, trop fait croire que toutes les technologies étaient suffisamment matures, disponibles, pour remplacer comme ça en quelques années les fossiles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et pour électrifier massivement la société. Et moi déjà, à cette époque-là, et très tôt, après la COP21, je me suis dit non, ça n'existera pas. Alors je le disais, je me faisais mal voir. Vous dites également, finalement aujourd'hui, ce fameux alignement des planètes, il n'est pas aussi bon, et notamment la société perçoit un peu moins l'urgence, la nécessité. Et je dirais que c'est en partie parce que on a fixé des objectifs qui, de mon point de vue, n'étaient pas atteignables, et que de fait, le citoyen se dit on m'a raconté ça, et aujourd'hui, on est très loin d'avoir atteint cela. Et donc, il y a une sorte de défiance.
Mieux développer les technologies pour mieux s'adapter, comment faire quand l'université n'a pas les financements, s'interroge Delphine Letor, présidente de Le Mans Université.
Dans le cadre du budget 2026, le ministère nous impose des charges nouvelles, donc plus d'un million de charges dans l'ensemble. Donc évidemment, ça nous met en crise budgétaire. Et on ne peut pas s'en sortir, en fait, ça devient structurel, puisqu'on nous rajoute année après année des charges nouvelles. Structurellement, on s'appauvrit et voilà, on ne peut pas s'en sortir.
Pour rappel, la France a été condamnée pour inaction climatique par le tribunal administratif de Paris pour non-respect de ses objectifs de diminution de gaz à effet de serre sur la période 2015-2018. Laurent Fabius a été président du Conseil constitutionnel à partir de 2016. Avec les pouvoirs de cette fonction, aurait-il été possible de limiter le désastre? Sinon, faut-il constitutionnaliser le respect des objectifs climatiques? Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de lui poser la question.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.